profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour, bonjour, amateurs du bizarre, voici notre programme. Une histoire étrange de Roald Dahl, la machine à capter les sons. Puis, nous parlerons de l'intelligence des végétaux. La machine a capté les sons. Un texte de Roald Dahl. C'était par une belle soirée d'été. Klausner poussa le portail et, contournant d'un pas vif la maison, se rendit au bout du jardin. Arrivé devant une baraque en bois, il ouvrit la porte qu'il referma derrière lui. Devant le mur de gauche, un long établi encombré de fils électriques, de batteries, de petits outils coupants. Dessus était posée une boîte noire d'un mètre de long qui ressemblait à un cercueil d'enfant. Klausner alla droit vers la boîte qui était ouverte, se pencha et examina attentivement son contenu. Il fureta dans un enchevêtrement de fils de couleur, de tubes argentés, prit sur la table un papier. L'étudia et se remit à considérer la boîte, passant les doigts sur chaque fil pour éprouver la solidité de tous les joints, non sans s'arrêter de temps en temps pour consulter le papier, vérification minutieuse qui dura près d'une heure. Puis, les yeux toujours braqués sur son contenu, il se mit à manœuvrer en tentonnant trois boutons sur le devant de la boîte sans cesser d'examiner le mécanisme intérieur. Cependant qu'il se parlait, à voix basse, hochait la tête, esquissait un sourire, les mains toujours actives, les doigts prestes et légers. Au moment d'une manipulation particulièrement délicate et difficile, sa bouche grimaçait, prenait des formes bizarres. Il murmurait « Oui, oui, maintenant à celui-là, c'est son tour. Mon Dieu, est-ce que je ne me trompe pas? Où est mon plan ?»« Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, oui, et maintenant ?» Bien, bien, bien. Absorbé et fiévreux, il travaillait comme s'il était talonné par le temps, en proie à une agitation violente et contenue. Soudain, il s'arrêta. Un pas faisait crisser le gravier du jardin. Il se retourna. La porte s'entr'ouvrit et un homme de haute taille parut sur le seuil. C'était Scott, seulement Scott, son médecin. « Ah, je vois !» fit le docteur. « Voilà où vous venez vous cacher tous les soirs. Salut, Scott !»« Je passais, je me suis arrêté pour prendre de vos nouvelles, » dit le docteur. « Comme je n'ai trouvé personne à la maison, j'ai poussé jusqu'ici. »« Et cette gorge, toujours douloureuse ?»« Non, plus du tout. » Puisque je suis là, laissez-moi y jeter un coup d'œil. Mais non, docteur, ne prenez pas cette peine. Je me porte à merveille. Le docteur se rendit compte de la tension qui régnait dans la pièce. Ses yeux se portèrent sur le coffre noir, puis sur Klausner. Vous avez oublié d'enlever votre chapeau, remarqua-t-il. Vraiment ? Répondit Klausner en retirant son couvre-chef pour le poser sur la table. S'approchant, le docteur se pencha pour scruter l'intérieur de la caisse. « Qu'est-ce que c'est? Vous fabriquez une radio ?»« Non, je bricole, ça fait passer le temps. »« Il est compliqué, votre bricolage. »« Oui, » répondit Klausner, distrait et tendu. « Drôle de truc, un peu effrayant, non ?»« Non, ce n'est rien une idée que j'ai eue. »« Oui, une expérience sur le son. Voilà tout. »« Bon Dieu, mon pauvre ami, vous n'en avez pas par-dessus la tête du son avec le métier que vous faites ?»« J'aime le son. » Ça n'a pas tout l'air. Se dirigeant vers la porte, le docteur se retourna et dit « Je suis ravi que votre gorge ne vous tracasse plus. » Mais il ne se décidait pas à partir, regardant le coffre. La complexité de son contenu l'intriguait. À quelle recherche pouvait bien se livrer ce bizarre malade ? Mais enfin, dit-il, à quoi destinez-vous cet appareil ? J'avoue que vous avez piqué ma curiosité. Les yeux de Klossner allèrent du docteur au coffre noir, et levant la main, il se gratta lentement le lobe de l'oreille droite. Il eut un silence. Souriant, le docteur attendait près de la porte. « Je veux bien vous l'expliquer si la chose vous intéresse. » Une deuxième pause, et le docteur comprit que Klossner hésitait, ne sachant pas où commencer. Se dandinant d'un pied sur l'autre, mal à l'aise, il tirait sur le lobe de son oreille en regardant à terre. Enfin, très lentement, il parla. « Voilà ce que c'est. La théorie, en vérité, est simple. L'oreille humaine, vous savez, qu'elle ne peut tout entendre. Certains sons, trop graves ou trop aigus, lui échappent. « Oui, oui, » dit le docteur. En deux mots, nous sommes incapables d'entendre toute note qui dépasse 15 000 vibrations par seconde. Le chien a l'oreille plus fine que nous, puisqu'il perçoit la note d'un sifflet. On en trouve dans le commerce, que l'homme n'entende pas. Oui, j'en ai déjà vu. Sûrement, montez plus haut que le sifflet, vous avez une autre note. Une vibration, si vous aimez mieux, mais je préfère dire note, que vous n'entendez pas non plus. Et ainsi de suite, une autre, puis une autre. Une succession ininterrompue de notes, jusqu'à l'infini. Il en est une, ah, si seulement nous pouvions l'entendre, qui atteint 1 million de vibrations par seconde. La suivante, 1 million de vibrations de plus, toujours plus loin, dépassant les chiffres que l'on ne peut concevoir, jusqu'à l'infini, l'éternité, au-delà des étoiles. Klossner s'animait en parlant. Chétif, nerveux, secoué de tics, il gesticulait sans cesse. Le visage était lisse, pâle, presque blafard, les yeux gris, divergents, à l'expression égarée lointaine, clignotait derrière des lunettes cerclées de métal. Frêle, contracté, ce petit bout d'homme était tout à la fois rêveur, agité et frémissant. Quel être lointain, se disait le docteur en regardant ce visage exsangue et ses yeux délavés. Oui, quel être lointain, perdu à des milliers de lieues, comme si l'âme s'était envolée à une distance incommensurable du corps. Le docteur attendait la suite de l'explication. Klossner soupira, joignit les mains et les serra très fort l'une contre l'autre. « Je crois, dit-il plus lentement, qu'il existe autour de nous un univers sonore qui nous est fermé. » Dans ces régions inaccessibles et vertigineuses, qui sait, des accords nouveaux, bouleversants, résonnent peut-être. Des harmonies subtiles, des dissonantes stridentes et sauvages, une musique envoûtante qui nous rendrait fous si seulement nos oreilles étaient accordées pour l'entendre. Des musiques inouïes, tout est possible. Possible, dit le docteur, mais peu vraisemblable. Vous n'en savez rien, rien. Klossner montra du doigt une mouche posée sur une bobine de fil de cuivre. Regardez cette mouche. Quel bruit fait-elle en ce moment? Que vous dit qu'elle n'aimait pas un sifflement perçant? Elle coasse, peut-être aboie, chante même sur un registre que vous n'entendez pas. Elle a une bouche, non? Elle a un gosier. Sur le pas de la porte, la main sur la poignée, le docteur regarda la mouche et sourit. Eh bien, je pense que vous en aurez bientôt le cœur net. Récemment, continua Klossner, j'ai réussi à fabriquer un instrument simple qui m'a révélé l'existence de toute une gamme de sons curieux et normalement inaudibles. Que de fois, assis devant cet appareil, j'ai vu l'aiguille enregistrer des vibrations que mon oreille ne percevait pas. Voilà les sons qui m'intéressent. Je voudrais savoir qui les émet, d'où ils proviennent. Et grâce à cette machine, dit le docteur, vous espérez capter tous ces bruits? C'est possible. Je n'ai pas encore réussi, mais je viens de la modifier, et ce soir je recommence. Cette machine, ajouta Klossner en la touchant, est destinée à capter les ultrasons inaudibles à l'oreille humaine et à les convertir en gammes perceptibles. Elle marche à peu près comme une radio. C'est-à-dire? C'est simple. Supposons que je veuille écouter le cri de la chauve-souris. Sont assez aigus, 30 000 vibrations par seconde. En admettant qu'une chauve-souris vole autour de cette pièce, je n'ai qu'à régler mon appareil à 30 000 vibrations. J'entends alors clairement le cri de la chauve-souris, je suis même capable de discerner la note exacte, fa dièse, si bémol, n'importe, mais sur un registre plus bas, vous saisissez ? Et vous comptez faire une expérience ce soir ? Demanda le docteur, les yeux fixés sur la sinistre boîte noire. Ah oui ? Eh bien, bonne chance ! Je tends un regard à sa montre, il s'écria. Mon Dieu, il faut que je me sauve. C'est gentil de m'avoir mis dans le secret. Je vous remercie. Je passerai un de ces jours pour apprendre le résultat de vos essais. Au revoir. Le docteur sortit en refermant la porte. Pendant un long moment, Klossner s'activa à l'intérieur de la caisse noire. Se redressant enfin, il murmura d'une voix contenue et surexcitée. « Allons-y, essayons encore. Amenons-la dans le jardin pour voir si la réception est meilleure dehors. Soulevons-la. Attention, Dieu qu'elle est lourde. » Gêné par son fardeau, il dut retourner le poser sur l'établi pour pouvoir ouvrir la porte. Il réussit enfin, au prix de 1000 difficultés, à transporter la machine au jardin où il la déposa avec précaution sur une table de bois au milieu d'une pelouse. Puis il retourna à la cabane chercher des écouteurs qu'il plaça sur ses oreilles. Ses gestes étaient précis, adroits. Très ému, il haletait et s'adressait de petites paroles encourageantes. On aurait dit qu'il avait peur, peur que la machine ne marchât pas, peur aussi de ce qui arriverait si elle marchait. Debout, dans le jardin, près de la table, blême et malingre, il avait l'air d'un vieil enfant rachitique, affublé de besicles. Le soleil s'était couché. Pas l'ombre d'un souffle ni d'un bruit, tout était calme. Dans le jardin voisin, un panier à fleurs au bras, une femme allait et venait. Par-dessus la clôture basse, machinalement, il la suivit des yeux. Se penchant ensuite vers sa machine, il tourna le bouton de mise en marche. La main gauche sur le contrôle de puissance, de la droite, il actionnait une petite aiguille au centre du tableau comme sur un poste de radio. Des bandes de chiffres allaient de 15 000 à 1 million. La tête sur l'épaule, grave et concentré, il fit tourner l'aiguille autour du cadran lentement, si lentement que le mouvement était à peine visible. Dans ses écouteurs, il entendit un léger craquement intermittent. Derrière ce craquement, le bourdonnement sourd de la machine. Mais en dehors de ces deux bruits, rien. Il éprouva soudain une impression étrange et fantastique. Ses oreilles lui semblèrent se tendre démesurément. Reliées à sa tête par des fils, elles s'allongeaient comme des tentacules et s'élevaient toujours pour atteindre ces régions secrètes et interdites des ultrasons, où jamais encore oreille humaine n'avait pénétré. L'aiguille imperceptiblement bougeait sur le cadran. Soudain, un cri strident, atroce. Klossner sursauta en poignant les bords de la table. Ses yeux firent le tour du jardin, comme s'il cherchait l'auteur de ce bruit insolite. Hormis sa voisine, et ce ne pouvait être elle, personne. Elle se penchait pour couper des roses jaunes qu'elle déposait dans sa corbeille. De nouveau ce cri, désincarné, inhumain, aigu, bref et glacé. La note avait une qualité bizarre, métallique sur un ton mineur, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Il regarda encore autour de lui, cherchant à en deviner la provenance. Pas un être vivant, en dehors de sa voisine. Il la regarda, elle allongeait un bras armé de ciseaux et d'un coup sec coupa une rose. Encore ce cri. Il avait entendu au moment précis où la femme avait tranché la tige. La voisine se redressa, mit les ciseaux dans la corbeille avec les roses et prit le chemin de sa maison. « Missy Saunders !» Klossner criait sa voix grêle décuplée par l'émotion. « Oui, Missy Saunders !» Surprise, la femme fit volte-face. Elle vit son voisin debout sur la pelouse, petite silhouette grotesque coiffée d'écouteurs, qui agitait les bras avec frénésie. Sa voix lui parut anormale, perçante et trop forte. Elle eut peur. « Coupez encore une rose, je vous en conjure, coupez vite !» Elle le regardait sans comprendre. « Mon Dieu, monsieur Klossner, mais qu'y a-t-il ? Faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Coupez encore une rose !» Missy Saunders avait toujours trouvé son voisin un peu bizarre, mais à présent, elle se demandait s'il n'avait pas perdu la tête. Alarmée, elle songea à tout lâcher pour courir chercher son mari. « Non, se dit-elle, il est inoffensif. Il ne faut pas le contrarier, voilà tout. »« Mais oui, monsieur Klossner, si cela vous fait plaisir. Prenant les ciseaux, elle se pencha et coupa une nouvelle rose. À l'instant même, Klausner entendit dans les écouteurs le cri atroce, inhumain. En levant son casque, il courut à la clôture qui séparait les deux jardins. « C'est bien, ça suffit. N'en coupez plus surtout, n'en coupez plus. » Immobile, une rose jaune à la main, la voisine ouvrit de grands yeux. « Il faut que je vous apprenne quelque chose, Mrs. Sanders, quelque chose que vous aurez peine à croire. » Les mains appuyées à la clôture, il se penchant, la fixant à travers les verres épais de ses lunettes. « Ce soir, vous avez coupé toute une courbeille de roses. Vous avez passé vos ciseaux au travers des choses vivantes, et chaque fois que vous coupiez une tige, la pauvre rose assassinée poussait un cri atroce. Le saviez-vous, Mrs. Sanders ?»« Non, répondit-elle, je ne m'en doutais certes pas. » Et c'est pourtant la vérité. Essoufflé, le cœur battant, il s'efforçait de contrôler son émotion. J'ai entendu leurs cris. À chaque coup, elles ont hurlé de douleur, un son très aigu. À peu près 132 000 vibrations à la seconde. Vous ne pouviez les percevoir. Mais moi, je l'ai entendu. Comme c'est intéressant, monsieur Klausner. Elle décida de compter jusqu'à 5 avant de courir vers la maison. Vous auriez le droit de me dire, un rosier n'a ni système nerveux ni voix. Comment peut-il crier? Vous auriez raison, j'en conviens. Il n'en a pas, en tout cas, pas comme les humains, c'est vrai. Mais après tout, qu'en savez-vous, Mrs. Sanders? Et se penchant par-dessus la clôture, il lui chuchota, la regardant dans le blanc des yeux avec une expression farouche. Comment savez-vous qu'un rosier ne souffre pas lorsqu'on coupe sa tige? Autant que vous, si l'on vous tranchait les poignets avec un gros sécateur. Qu'en savez-vous, hein? Après tout, il est vivant, lui aussi, non? Oui, monsieur Klausner, oui, bonne nuit. Sans attendre son reste, elle le fila brusquement, courant à toutes jambes vers sa maison. Klausner retourna sa machine, coiffa les écouteurs et se remit aux aguets. Rien que les craquements et le bourdonnement sourd de l'appareil. Alors il se baissa, choisit sur le gazon une petite pâquerette blanche, la saisit et tira pour l'arracher. Dès qu'il saisit la tige entre le pouce et l'index, et jusqu'à ce qu'il eût arraché la fleur, il entendit dans les écouteurs un son à peine perceptible, très aigu, étrangement inanimé. Il recommença l'expérience avec une autre pâquerette. Encore ce cri, mais il n'était pas sûr qu'il exprimât la douleur, non plutôt la surprise. Mais était-ce bien de la surprise? Dans ce cri, aucune trace d'émotion qui fût comme des hommes. C'était un cri neutre, atone, une seule note qui n'exprimait rien. C'était pareil pour les roses. Il avait eu tort d'imaginer qu'elles avaient crié de douleur. Sans doute les fleurs n'éprouvaient-elles pas la douleur. Mais autre chose, une sensation impossible à décrire dans les limites du langage humain. Klausner se redressa et enleva les écouteurs. La nuit était venue et les fenêtres des maisons voisines scintillaient de lumière. Prudemment, il souleva la lourde caisse noire pour la reporter sur l'établi dans la cabane. Puis, ayant fermé la porte à double tour, il se dirigea vers la maison. Le lendemain, à l'aube, à peine habillé, Klausner courut à la cabane. Soulevant la lourde machine, il la cala sur sa poitrine et, titubant sous le poids, la porta dehors. Il franchit le portail, traversa la route et gagna le parc. Là, il s'arrêta au pied d'un grand hêtre. Ayant posé la machine par terre, il retourna chez lui rapidement pour prendre une hache dans la cave à charbon. Il revint à l'arbre et la posa près du tronc. Il regarda ensuite attentivement autour de lui pour s'assurer qu'il était seul. Ses yeux clignotaient derrière les verres épais de ses lunettes. Il était 6 heures du matin, tout était calme. Les écouteurs aux oreilles, il mit la machine en marche et reconnut le bourdonnement familier. Puis, se saisissant de la hache, les jambes écartées, il se mit en position et d'un seul coup frappa l'arbre près de sa racine. Aussitôt, Klausner entendit un bruit extraordinaire, un son jamais entendu, clameur géante, rauque et sans timbre, à la fois plainte et mugissement. Différent du cri bref de la rose, ce grand sanglot dura plus d'une minute, atteignant son ampleur au moment où la hache entama le bois pour s'éteindre graduellement et mourir. Horrifié, Klausner ne pouvait détacher ses yeux de l'endroit où la hache avait pénétré dans le bois tendre. Avec d'infinies précautions, il libéra l'outil et le jeta sur le sol. Puis, passant les doigts sur les bords de l'entaille, il essaya vainement de rapprocher les lèvres béantes de la plaie, en murmurant d'une voix désespérée « Arbre, oh arbre, pardonne-moi, tu guériras, tu verras. » Il resta là un long moment, les mains caressant le tronc du hêtre. Soudain, il se retourna, quitta le parc à grands pas en direction de sa maison. Chez lui, il se dirigea rapidement vers le téléphone, consulta l'annuaire et appela le docteur. Le récepteur d'une main, de l'autre, il pianotait sur la table avec impatience. À l'autre bout du fil, il entendit la sonnerie, puis un déclic et une voix brouillée de sommeil. « Allô, oui ?»« Docteur Scott ?»« Lui-même. » »« Docteur, il faut venir tout de suite, je vous en prie. »« Mais qui me demande ?»« Moi, Klausner. » Vous vous rappelez, docteur, ce que je vous ai dit hier soir au sujet de mes expériences et comment j'espérais obtenir... Oui. Mais qu'est-ce qui arrive? Êtes-vous malade? Non, je ne suis pas malade, mais... Comment, vous n'êtes pas malade et vous me réveillez à 6h30 du matin? Docteur, je vous en supplie. Venez, faites vite. Je veux que quelqu'un l'entende. Je ne puis en croire mes oreilles, cela me rend fou. Le médecin perçut la tension nerveuse presque hystérique dans la voix de son interlocuteur. Ce ton, il l'entendait seulement lorsque les gens lui téléphonaient pour dire « Venez vite, un accident est arrivé ». Il répondit d'une voix lente en appuyant sur les mots. « Vous voulez vraiment que je sorte du lit pour venir ?»«
Oui, tout de suite, dépêchez-vous, docteur. »«
Très bien, j'arrive. » Klausner s'assit auprès du téléphone pour attendre. Il tenta, mais en vain, de se rappeler le cri de l'arbre. Il savait seulement que c'était une clameur déchirante qui l'avait glacé d'horreur. Il essaya ensuite d'imaginer le cri d'un homme dans la même situation. Rivé au sol tandis qu'une lame acérée pénètre profondément sa chair et la fouille. Crierait-il comme l'arbre? Non, sûrement pas. La plainte de l'arbre avait un ton inhumain et désincarné qui était insupportable. Alors Klausner rêva à d'autres choses à animer, à un champ de blé aux lourds épis dorés et vivants. Il imaginait la faucheuse abattant d'un seul coup 500 têtes à la seconde. Oh mon Dieu, à quoi pouvait ressembler ce bruit-là? 500 épis de blé hurlant tous à la fois et 500 autres épis tombant à leur tour sous la faux. Non, non, se dit-il, comment pourrais-je approcher un champ de blé avec ma machine pendant les moissons? Jamais plus je ne pourrai manger de pain. Mais les oignons, les carottes, les choux, les pommes de terre et les pommes. Ah mais non, pour les pommes, c'était autre chose, elles tombaient toutes seules une fois mûres. Pourvu qu'on ne les arrachât pas à leurs branches. Il était tranquille pour les pommes, mais pas du tout pour les pommes de terre. De même que la carotte, le chou et l'oignon. La pomme de terre devait sûrement crier. Il entendit cliqueter le loquet du portail et s'élança au dehors. Ah, il aperçut la haute silhouette du docteur qui remontait l'allée, sa serviette à la main. « Eh bien, dit le docteur, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Venez avec moi, docteur, je veux que vous l'entendiez, vous aussi. Je vous ai appelé parce que vous êtes le seul à qui j'ai tout raconté. C'est là-bas, de l'autre côté de la route, dans le parc, que nous devons nous rendre. » Le docteur dévisagea Klausner, pas le moindre signe de folie ou d'hystérie. Il était simplement ému et surexcité, mais maître de lui. Traversant la route, ils gagnèrent le parc et le grand hêtre. Le cercueil noir et la hache gisaient toujours à ses pieds. « Tiens, pourquoi avoir apporté votre machine jusqu'ici ?» demanda le docteur. « Il me fallait un arbre. Je n'ai pas de grands arbres dans mon jardin. » « Et la hache ? Vous le saurez bientôt. » « Voulez-vous, s'il vous plaît, mettre ces écouteurs à vos oreilles? Faites bien attention et notez bien tout ce que vous entendez pour me le décrire avec précision. » Le docteur prit le casque et, souriant, le mit en place. Klausner se pencha vers l'appareil et tourna le bouton. Puis il souleva la hache, se mit en position, les jambes écartées. Il hésita et demanda au docteur « Entendez-vous quelque chose ? Quoi, par exemple, entendez-vous un bruit ?» « Rien qu'un bourdonnement. » Klausner, debout, la hache en main, ne se décidait pas à frapper. Le souvenir du cri de l'arbre le troublait. « Qu'entendez-vous ? » demanda le docteur. « Rien, » répondit-il, balançant la hache pour frapper. Au même instant, il eut la sensation que le sol bougeait sous ses pieds, comme si les racines du être tressaillaient. Il était trop tard pour arrêter son élan. La hache retomba et son taillant se planta dans le tronc. Soudain, on entendit un terrible bruit de bois qui se fend et le froissement de feuillage. Les deux hommes levèrent la tête et le docteur cria « Attention, sauf qui peut, garez-vous !» Arrachant ses écouteurs, il courut se mettre à l'abri. Cloué sur place, Klausner vit une maîtresse branche, longue d'au moins 60 pieds, s'incliner lentement et, dans un fracas assourdissant, se briser à l'enfourchure. Il évita de justesse par un saut de côté. La branche tomba sur la machine et la réduisit en miettes. « Juste ciel !» s'écria le docteur, qui revint en courant. « Vous l'avez échappé belle. J'ai cru qu'elle vous écrasait. » Les yeux fixés sur l'arbre, son visage lisse figé de terreur, Klausner marcha vers le hêtre appalant et réussit avec douceur à libérer la cognée. « Vous l'avez entendu, n'est-ce pas » chuchota-t-il, d'une voix à peine perceptible en s'adressant au docteur. Encore essoufflé par la course et l'émotion, le docteur demanda « Entendu quoi ? N'avez-vous rien entendu dans les écouteurs au moment où la hache a frappé ?» Le docteur se gratta la nuque. « Eh bien, à dire vrai, il hésita, fronça le sourcil, se mordit à la lèvre. « Non, je n'en suis pas certain, je n'ai pas gardé les écouteurs assez longtemps, une seconde à peine après le coup de hache. « Oui, mais n'avez-vous rien entendu quand même ?»« Je ne sais pas, » répondit le docteur, « je ne peux pas affirmer que j'ai entendu quelque chose. Probablement le bruit de la branche qui se fendait. » Il parlait vite, d'un ton irrité. « Mais à quoi ressemblait ce bruit ?» Klausner, penché vers lui, regardait le docteur au fond des yeux. « Dites-moi à quoi il ressemblait exactement ?»« Du diable, si je le sais !» « Je n'avais qu'une idée, sauver ma peau. Allons, laissons cela. Docteur, je vous répète, à quoi ce bruit ressemblait-il ? Eh, nom d'une pipe, comment voulez-vous le savoir ? Cette masse énorme, presque la moitié de l'arbre menaçait de me tuer, et je ne pensais qu'à me mettre à l'abri. » Pas de doute, le médecin était nerveux. Klausner le sentait. Pendant 30 secondes, il le dévisagea sans un mot. Mal à l'aise, le docteur se dandinait d'un pied sur l'autre. Il haussa les épaules et fit demi-tour pour s'en aller. « Eh bien, remarqua-t-il, je crois qu'il est temps de rentrer. »« Écoutez-moi, » fit le petit homme, son visage pâle soudain empourpré. « Écoutez-moi, docteur, il faut d'abord me recoudre ça. » Il montrait du doigt l'entaille dans le tronc du hêtre. « Il faut le recoudre, vite. »« Allons, c'est de bêtises, » fit le docteur. « Faites ce que je vous dis. » Klausner serrait le manche de la hache et sa voix basse avait pris une inflexion étrange, presque menaçante. « Ne soyez pas ridicule, » répondit le docteur. « Comment voulez-vous que je recouse le bois ? Allons, rentrons. »« Alors c'est vrai, vous ne pouvez pas recoudre le bois ? Non, c'est impossible. Avez-vous de la teinture d'iode dans votre trousse ? Admettons que j'en ai. Quoi, alors ? Il faut badigeonner la plaie avec de l'iode. Ça pique, mais on ne peut pas l'éviter. »« En voilà assez, » fit le docteur. Il fit mine de s'éloigner. « Allons, assez de sottises comme ça. Retournons à la maison et ensuite... » « Badigeonnez-moi cette plaie à l'iode !» Le docteur hésita. Les mains de Klausner serraient dangereusement la hache. Aucun recours, sinon la fuite, et le docteur ne pouvait s'y résoudre. « Bon, » fit-il, « je vais la badigeonner. » Prenant sa trousse dans l'herbe, à quelques pas de l'arbre, il ouvrit en tirant une bouteille d'iode et du coton hydrophile. S'approchant du hêtre, il déboucha le flacon, fit tomber quelques gouttes sur l'ouate, et tamponna consciencieusement l'entaille. Du coin de l'œil, il épiait Klausner, qui, appuyé sur sa hache, ne le quittait pas du regard. « Assurez-vous qu'elle est désinfectée bien à fond. »« Oui, » dit le docteur. « Maintenant, à l'autre entaille, juste au-dessus de celle-là. » Le docteur obéit. Puis il se releva, examina très sérieusement son travail, et dit « Ça devrait aller maintenant. » Klausner se rapprocha, observant les deux plaies d'un air grave. Oui, dit-il en hochant plusieurs fois sa grosse tête en signe d'assentiment. Oui, je pense que ça pourra aller. Et recula d'un pas. Vous viendrez demain y jeter un coup d'œil ? Ben oui, bien entendu. Et vous remettrez un peu d'iode? Si c'est nécessaire, oui. Merci, docteur. Klossner hocha encore la tête, laissa retomber la hache et sourit. Son sourire avait quelque chose de farouche, d'exalté. En un clin d'œil, le docteur fut à ses côtés. Il le prit doucement par le bras en disant « Venez maintenant, il faut partir. » Et ils s'éloignèrent tous deux, à pas silencieux et rapides, traversant le parc et la route pour retourner à la maison. Bizarre, non? On fait une petite pause musicale. Vous êtes donc sur CFM Radio, où vous écoutez l'émission Au plus profond des ondes, histoire insolite, extraordinaire et paranormale. Dans le droit fil du texte assez savoureux que je viens de lire, on va parler de l'intelligence des végétaux. L'intitulé de cet article choquera d'ailleurs peut-être certaines personnes pour qui l'intelligence demeure l'apanage des humains ou à la rigueur de certains animaux. Mais qu'est-ce que l'intelligence ? La faculté de connaître, discerner, comprendre, décider, s'adapter ou lutter, se souvenir, anticiper, découvrir de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. C'est aussi l'empathie, la séduction, la ruse, tout ce que pratiquent les arbres et les plantes pour peu qu'on sache les observer. Jacques Monod, le pape des biologistes matérialistes, disait que le fait d'attribuer un but ou un projet à la nature est contraire au fondement de la méthode scientifique. Donc, s'il constate des faits qui démontrent ce but et ce projet, un bon scientifique se doit de les passer sous silence. On n'en est plus là, heureusement. Petit retour en arrière. Il y a 4 milliards d'années, dans ces océans que les biologistes appellent depuis Haldane la soupe chaude, sont apparues, les bactéries qui, par des combinaisons moléculaires, vont former les premiers êtres complexes. Des plantes. Le sucre et la fermentation sont les secrets de cette évolution initiale qui dégagera du gaz carbonique. Au cœur du grand chantier de la vie se trouve la chlorophylle. Grâce à cette molécule verte qui prend alors le pouvoir en concentrant l'énergie solaire, la réaction chimique entre l'eau et le gaz carbonique assurera la production de sucre tout en dégageant un déchet qui sera le point de départ de l'aventure biologique. L'oxygène. Sa colonisation progressive de l'atmosphère changera la couleur du ciel, jusque-là d'un gris brumeux. C'est grâce aux plantes vertes que le ciel est devenu bleu. La photosynthèse, synthèse des sucres grâce à la chlorophylle et à la lumière, est donc née avec le premier être végétal. On sait à quoi il ressemble. On l'a trouvé dans des fossiles calcaires de Rhodésie. Il a entre 3 et 4 milliards d'années. Revenons à ce moment clé. Que va faire la vie maintenant que l'atmosphère primitive a disparu et qu'il faut bien s'habituer à cet oxygène, véritable poison pour les premiers micro-organismes? Eh bien, l'évolution va récupérer ce gaz toxique pour en faire une source d'énergie en le recombinant au sucre décomposé par certains prototypes qui ont choisi de remplacer la photosynthèse par la respiration. Étape suivante. La plante se transforme en se rendant autonome. On est arrivé à comprendre, grâce au microscope, l'évolution d'une certaine algue brune qui, voici 3 milliards d'années, a appris à nager. Condamnée jusqu'à alors à flotter au gré des courants, voilà qu'elle se dote de cils qui lui permettent de se déplacer à volonté. Puis elle se fabrique une sorte de bouche qui lui donne la possibilité d'ingérer des proies solides. Du coup, ces algues inventent la chasse. L'autonomie les a menées logiquement à la prise d'initiative. Mais dans le même temps, elles perdent leur chlorophylle. Capables de s'alimenter par elles-mêmes, elles n'ont plus besoin de la photosynthèse. C'est ainsi que les végétaux initiaux, en sacrifiant leur chlorophylle, seraient devenus, je dis bien seraient, les premiers animaux. Et Dieu dans tout ça. On peut le mettre où l'on veut, si on le souhaite. C'est le fabricant de soupe, la bactérie initiale, ou alors le principe même de l'évolution. Avec ou sans lui, une histoire prodigieuse est née pour nous, au XXe siècle, grâce à ces algues fossiles étudiées sous les lentilles du microscope. Le raccourci est abrupt, pourtant de nombreux biologistes l'ont pris. Les bactéries ont inventé les plantes qui ont inventé l'animal. Catégorie dans laquelle nous sommes bien obligés de nous ranger en toute modestie. Mais nous sommes les premiers sans doute à avoir compris ce qui se passait et à l'avoir exprimé. Bien avant que la science n'arrive aux conclusions ci-dessus, la tradition chamanique avait appris aux hommes qu'ils sont le rêve des plantes. Les chamans ajoutent néanmoins que ce sont les plantes qui le leur ont dit. Revenons à cette intelligence végétale sous un angle plus contemporain. Prenons un arbre. Est-ce l'immobilité qui stimule sa perception de l'environnement, ses techniques de communication, de symbiose, de défense et d'attaque? On a récemment découvert la manière dont l'arbre pratique la télépathie gazeuse. On a compris par quelle technique il se défend contre les prédateurs, en les empoisonnant ou en les stérilisant par des hormones. Mais à l'inverse, l'arbre développe la même « psychologie » entre guillemets, sélective et opportuniste dans les alliances qu'il noue avec des champignons comme avec des insectes. En essayant de me glisser dans l'écorce d'un arbre, le temps d'un roman, j'ai nourri ma fiction de réalité botanique que certaines ont prise pour les fruits de mon imagination. Mais non, l'arbre sait éliminer les champignons qui lui sont nuisibles, tout en procurant de la nourriture à ce dont il a besoin, comme certaines variétés de pleurotes. Ces carnivores fongiques le débarrassent en effet des nématodes dangereux vers destructeurs de racines, en les chassant au lasso. Dès qu'un ver passe à sa portée, le champignon décoche un filament imprégné de glu qu'il étrangle par un nœud coulant, puis il absorbe et le digère. En échange, l'arbre fournit à son allié vermivore les nutriments azotés nécessaires au développement de son attirail de chasse. Même chose avec les fourmis, en plus complexe, en plus raffiné. L'acacia cornigera leur offre le gîte et le couvert, poussant la sollicitude, ou le calcul, jusqu'à sécréter une nourriture spéciale pour leurs larves, soigneusement dosée en protéines et corps gras. Les fourmis, en retour, le protègent contre ses agresseurs. Malheur aux punaises des bois ou aux champignons parasites, qui auraient la mauvaise idée de s'attaquer à leur hôtel-restaurant-crèche. Plus étonnant encore, le cas de nombreuses lianes tropicales qui, vivant au sommet des arbres, ont quelques difficultés à se procurer des nutriments. Elles accueillent alors dans des cavités de leurs tiges des fourmis qui, se nourrissant de leur suc, leur apportent en échange des larves d'insectes que les feuilles vont absorber. On l'a prouvé en rendant ces larves radioactives afin de pouvoir suivre à la trace leur digestion dans les tissus de la plante. Produit de cette coévolution qui enchantait Darwin comme Lamarck, voici un animal qui chasse pour nourrir le végétal qui lui offre l'hospitalité. La plante, qu'on pourrait juger a priori moins évoluée que l'arbre, n'est donc pas en reste dans ce rapport subtil qui la lie à son écosystème. Avec une même capacité de décision, elle pratique en réponse aux agressions la transformation de ses tanins en poison, associé à un message gazeux afin d'alerter ses congénères. Mais elle emploie aussi, avec la même efficacité, la séduction et la ruse, que ce soit pour lutter contre un prédateur. Par exemple, le maïs, quand il est attaqué par les chenilles, émet une odeur attirant les guêpes friandes des dites chenilles. Aussi pour capturer une poix, la très carnivore Drosera fabrique un faux nectar qui engluera l'insecte piégé, ou simplement pour attirer le pollinisateur dont elle a besoin pour se reproduire. L'Helicodiceros muscivorus, par exemple, de la famille de l'arôme, attire les mouches à viande en se faisant passer pour un cadavre, dont il imite à la perfection l'odeur pestilentielle. Les mouches, toutes excitées, pondent leurs œufs dans les organes reproducteurs de la plante, dont elles assureront la fécondation en transportant à leur insu le pollen vers d'autres fleurs cadavres. Même stratégie pour l'orchidée marteau, mais dans le domaine visuel de surcroît. Comme elle n'intéresse aucun pollinisateur, cette mal-aimée a déguisé le centre de sa fleur en guêpe femelle de l'espèce tinidée, reproduisant avec rigueur sa forme et ses proportions. Le mâle, attiré par les phéromones sexuelles qu'elle a également su imiter, se précipite sur la fleur pour copuler. Quand il se rend compte que c'est impossible, il repart chargé de pollen qu'il véhiculera ainsi, d'orchidée en orchidée, au fil de ses déboires amoureux, grâce auxquels ses plantes seront fécondées. Mais le plus incroyable est que l'orchidée marteau fabrique le sosie de la tinidée femelle avant que celle-ci ne sorte de la terre où elle vit, en dehors de la période de fécondation. Il y a même un calcul temporel. On est là devant un exemple d'anticipation créatrice qui laisse songeur. La plante, qui n'a pas encore vu cette guêpe femelle au moment où elle imite son apparence et son odeur sexuelle, aurait-elle lu cette information dans les images mentales du mâle qui est à sa recherche? C'est une pure hypothèse de romancier, bien sûr, en l'absence de toute explication rationnelle pour l'instant. Tout ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle, c'est que les plantes savent gérer des informations et réagir avec l'entièreté de leur organisme. Leurs cellules communiquent entre elles via des signaux moléculaires et électriques, dont certains ressemblent étonnamment à ceux qu'utilisent nos propres neurones. Quant au mystère des plantes à vrille, on ne sait toujours pas comment s'effectue la reconnaissance à distance, qui les oriente vers tel ou tel support de croissance. Est-ce une hormone gazeuse qui, en butant contre un obstacle, rapporterait l'information à la plante par une sorte de reflux? Des recherches sont toujours en cours sur cette fascinante hypothèse. D'ores et déjà, Science et Vie a décerné à ces plantes grimpantes un prix d'intelligence doublé d'un prix de gymnastique. Et je ne peux résister au plaisir de citer la suite de l'article de Pierre Rossion. Il dit ceci. Les lecteurs qui auront planché sur l'aine marin au cours d'un stage de voile seront surpris d'apprendre qu'une plante grimpante, comme la passiflore, utilise les variantes d'une de vache, de chaise ou d'une simple pour se fixer à son support. On pourrait bien sûr taxer ces auteurs et moi-même d'anthropomorphisme, mais il ne faut pas mettre la charrue avant l'herbivore. C'est la plante qui a expérimenté les mécanismes qui ont abouti à notre intelligence. Anthony Trevavas, professeur de biologie à l'Université d'Édimbourg, a fait une découverte considérable en 1990. Pour comprendre comment les plantes perçoivent les signaux extérieurs, comment elles traitent en interne et transmettent l'information, il a introduit génétiquement dans un plant de tabac une protéine destinée à la faire luire quand le taux de calcium augmente dans ses cellules. Puis le phytobiologiste a donné une caresse à la plante. Aussitôt, elle s'est mise à briller. En quelques millièmes de seconde, elle avait répondu à un signal qui aurait des effets à long terme sur sa morphologie. Une plante qu'on touche à plusieurs reprises ralentit sa croissance en se rendant plus épaisse et donc plus résistante. Trevavas rappelle que les neurones humains, eux aussi, quand ils transmettent de l'information débouchant sur une décision, produisent une augmentation significative de calcium. Alors, pour respecter la chronologie de l'évolution, disons que c'est l'homme qui fait du phytomorphisme. Cela étant, on a découvert que les végétaux pouvaient produire des hormones qu'on croyait réservées au règne animal et au genre humain, comme la progestérone, trouvée initialement dans la pomme de terre, ou l'œstrone, découvert dans des pollens de dattier et des graines de grenade. On sait aujourd'hui que des milliers de plantes, comme le fenouil ou la sauge, sont aptes à fournir aux femmes des compléments hormonaux. Mais si la juvabione des conifères, par une simple variation de dosage, en est venue à stériliser les punaises quand leur nombre les rend trop dangereuses, ces hormones naturelles pourraient-elles devenir un système de défense des végétaux contre leurs prédateurs humains? La déforestation nuit gravement à la santé, on le sait, et ce n'est peut-être qu'un début. Je vous remercie pour votre écoute et bien sûr, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.
Jamaica, Apache, with no relay.